Hé hey mec!
Quoi?
C'est le podcast!
Ah ouais? Lequel?
On se pose, on prend une bière!
Salut tout le monde, c'est Pénélope. On se retrouve pour un nouvel épisode de Autour d'une bière, un podcast sans pression où on se retrouve entre potes autour d'une bière pour échanger sur un sujet d'actu. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu sport. Cet été a eu lieu les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 et j'ai pas mal suivi. Le volley reste mon sport fave, mais je me suis pas mal attardée sur le décathlon et sur la prestation de Kevin Mayer. Après la remise de sa médaille d'argent, l'athlète a été répondre à quelques questions au micro de Nelson Montfort. C'est à ce moment-là que le décathlonien a parlé de dopage et je cite « À tous les enfants qui nous regardent aujourd'hui, j'étais comme vous quand j'étais petit et beaucoup de gens autour de moi, dès qu'il y a une grosse performance, disaient qu'ils étaient dopés. » L'athlète expliquait alors que quand il était enfant, il croyait que pour faire du sport de haut niveau, il fallait être dopé. Évidemment, il a encouragé à travailler plus dur que se doper. Logique. Son discours m'a amené à réfléchir sur le côté addictif du sport et ses risques comme le dopage. Le sport, c'est avant tout une passion. Est-ce que cette passion dépasse la dépendance? Est-ce que la réussite sportive est plus importante que les risques comme le dopage? Mais aussi, qu'est-ce que la préparation mentale? Vous savez, le fameux « on lâche rien », comme pour l'équipe de France de volley, alors qu'en poule, sur 3 matchs, ils en ont perdu 2. Pour répondre à ces questions, j'ai avec moi des invités de qualité que je vais laisser se présenter.
Coucou, moi c'est Mila et je suis en anglais à l'Académie EVJ.
Salut tout le monde, moi c'est Hugo, je suis en licence d'EVS, pareil en deuxième année à l'Académie.
Salut tout le monde, moi c'est Charles et je suis en licence sciences politiques en deuxième année à l'Académie EVJ.
Avant toute chose, j'aimerais savoir quel est le sport que vous pratiquez, les loups.
Moi ça fait 13 ans, 14 ans que je fais du tennis, mais j'ai commencé à 4 ans.
Wow.
Mais je touche un peu à tous les sports, enfin j'aime bien tous les sports.
Pareil pour moi, je touche un peu à tous les sports. Dans ma vie, j'ai fait du cyclisme, j'ai fait du tennis, du foot, du rugby, du tennis de table et je fais en ce moment du demi-fond du coup.
Depuis combien de temps?
Depuis 2 ans maintenant.
Okay. Et toi Charles?
Moi je fais du tennis depuis mes 5 ans du coup. Et après en dehors, j'aime bien faire des foot, j'ai aussi un vélo de course donc ça me permet de faire du cyclisme, ce que j'adore, mais je touche à tous les sports aussi.
Alors j'aimerais qu'on commence par la prépa mentale. Vous êtes tous sportifs, vous avez tous fait des matchs. J'ai toujours voulu savoir ce que pensent les sportifs avant un gros match ou quand ils sont en train de perdre le match du tournoi. À votre niveau bien sûr, qu'est-ce que vous dites quand vous êtes en train de perdre un gros match?
Quand je perds une course, j'essaye de me dire que... Déjà je me dis pas que je suis en train de la perdre. Je me dis que la course tant qu'elle n'est pas finie, je peux encore rattraper le gars. Si le gars il est 10-20 mètres devant moi, je vais tout faire pour le rattraper parce que si ça se trouve, il est encore plus cuit que moi. Et si jamais je perds à la fin, à chaud je vais être déçu forcément. Et à froid je vais me dire c'est pas grave et je vais travailler pour modifier ce qui n'a pas été et essayer la prochaine fois de passer la ligne avant lui quoi.
Ok.
Alors moi il y a un peu deux périodes j'ai l'impression. Quand j'ai commencé, enfin jusqu'à là il y a récemment, jusqu'à avant le Covid, j'irais. J'ai toujours été hyper pessimiste assez pendant mes matchs. J'ai toujours été hyper dure envers moi-même. Enfin, vraiment, je me parle beaucoup, beaucoup en match. Et quand j'étais en train de perdre, je me souviens vraiment. Je me parlais mal, je m'insultais, enfin, je me répétais, t'es une merde. Et depuis l'arrêt des compétitions, enfin, depuis le retour plutôt, j'ai rejoué pas mal l'été dernier. Et en fait, du coup, j'ai l'impression qu'avec l'arrêt des compètes, je suis beaucoup moins dure maintenant avec moi-même parce que j'ai beaucoup moins d'attentes. Je sais que ça va être un processus qui va être long de reprendre un bon niveau. Je suis moins pessimiste et j'essaie plus de me dire je prends les points après les autres et j'essaie de voir le côté positif, quoi.
Est-ce que vous êtes comme ça aussi dans la vie? Est-ce que, genre, au sport, c'est le reflet de votre comportement habituel ou vous êtes totalement une autre personne?
Je pense pas parce que je pense pas être dans la vie quelqu'un de pessimiste. Je pense que je suis plutôt joviale en général. Mais le sport, ça me met dans des états parfois où même quand je regarde un match, je peux péter des câbles, quoi. Et je me souviens mon père qui quittait la salle quand il me voyait perdre parce que, lui, c'est encore plus un grand malade que moi. Enfin, il est prof de sport, donc du coup, c'est un peu compliqué. Et même lui, ça le mettait dans des états où il pouvait même pas me voir perdre tellement c'était dur à voir.
Je vois partir là.
Ouais, et bizarrement, je gagnais quand il était pas là.
Ouais, moi, c'est pareil, ça me fait la même sensation. Genre, quand mes parents sont pas là, bizarrement, je me mets dans ma bulle. Et genre j'arrive mieux à jouer, etc. Je suis avec moi-même. Mais paradoxalement, j'adore quand ils sont là parce que je les regarde tout le temps.
Ouais.
Et c'est un vrai problème parce que je les regarde tout le temps. Et quand je vois qu'ils me font pas de signe ou que ma mère, par exemple, me regarde pas et n'a pas vu le point ou je sais pas, sur son téléphone, ça m'énerve au plus haut point. Et du coup, ça me sort du match alors que je suis peut-être en train de gagner le point. Moi, en tout cas, dans la compétition, Moi déjà je perds pas des gros matchs.
Moi les finales je les gagne.
C'est ça la mentalité. Non, en vrai les gros matchs ça met une pression de fou. Mais j'aime beaucoup moi quand on joue en équipe parce qu'il y a toujours quelqu'un avec moi sur le banc. J'aimais pas quand on était jeune parce que souvent le mec avec moi était plutôt défaitiste. J'espère qu'il écoutera pas ça. Parce que du coup ça me rendait un petit peu triste parce qu'il y avait quelqu'un de défaitiste à côté de moi tout le temps et bah, j'en ai même cassé une raquette. Donc bon. Et après là par contre en adulte, il m'est arrivé de gagner un match que j'aurais jamais gagné tout seul par exemple. Et il y avait le mec à côté de moi qui était pas forcément, il me parlait pas tactique etc, mais il me faisait rigoler sur le banc etc, et ça m'a vraiment aidé.
Selon l'équipe, la préparation mentale est un entraînement régulier où l'athlète se familiarise avec des techniques et des outils pour les appliquer en compétition, afin de maintenir l'efficacité de son geste, de se blinder contre le stress et donc de perforer dans des conditions optimales. J'ai su que pendant les JO, la préparation mentale dans les équipes des États-Unis constituait une séance à part entière. Est-ce que vous pensez que c'est indispensable ?
Moi, personnellement, je trouve ça hyper important, que ce soit au niveau amateur ou au niveau professionnel. Déjà au niveau professionnel, pour moi ça reste indispensable parce que surtout comme dans des compétitions comme les JO qui est quand même la plus grosse compétition internationale qui existe au monde, les athlètes subissent une pression de fou et on a vu des exemples très récents avec Simone Biles aux États-Unis, ouais. Naomi Osaka au tennis qui en ce moment est en train de craquer alors que la meuf elle a 21 ans. C'est la nouvelle star du tennis mondial et elle supporte plus la pression médiatique. Et on voit que le mental, c'est quelque chose qui est... C'est plus de la moitié de la performance pour les amateurs et les jeunes encore plus. Parce que, surtout dans le tennis, on voit un nombre de jeunes qui craquent, qui font des burn-out au moment d'arriver à un très haut niveau. Ça devrait être quelque chose qu'on devrait enseigner dans les écoles de tennis dès le départ.
Mais ça prouve bien, je rebondis sur ce qu'a dit Mila, je suis totalement d'accord avec ce qu'elle a dit. Je pense que vraiment aujourd'hui le mental prime sur le physique et c'est quelque chose en France qu'on n'a pas assez instauré dans les écoles, que ce soit les écoles de tennis ou peu importe le sport finalement. Aujourd'hui c'est quelque chose qu'on délaisse beaucoup trop alors que c'est super important. Et on le voit d'ailleurs justement entre la transition entre les jeunes et le monde professionnel, dans le sens où les jeunes français en général, et en l'occurrence le tennis, ils explosent en junior et après il n'y a plus personne en senior, enfin il n'y a plus personne, ils restent quand même très forts. Hein. Mais je veux dire, ils ne sont pas capables de gagner de gros matchs et d'être présents dans les grands rendez-vous.
Le fait d'aborder aussi la pression qui monte, qui est grandissante. Après, il y a le public français qui forcément...
Il y a beaucoup d'attentes quand t'es en
beaucoup,
France.
Beaucoup d'attentes. Mais par exemple, moi, un exemple pour moi, c'est Novak Djokovic. Quoi. Le gars, si là, il fait le gagne 3 grands chelems sur 4, c'est uniquement parce que... Enfin, c'est pas uniquement, mais il est très fort dans sa technique, etc. Mais c'est parce que mentalement... Depuis le début de la saison, il s'était dit je vais faire le grand chelem et il était à deux doigts de le faire. Il a craqué, justement, il a craqué mentalement.
Et tu penses que sa défaite au JO, je suis persuadée que ça a eu un lien avec sa défaite à l'US Open.
Il s'est dit qu'il pouvait perdre, je pense.
Oui, je pense que en fait il était intouchable à ce moment-là. Personne ne le voyait perdre au JO et le fait qu'il perde, on s'est dit en finale il est pas si. Il a quand même des failles.
Autre chose maintenant, l'effet des dopants. Je pense que c'est plus au niveau professionnel que le problème se joue, bien que je doute pas de votre niveau. Mais il y a plusieurs sortes de dopants comme la morphine, la cocaïne, les narcotiques, mais certains compléments alimentaires qui sont autorisés, comme la caféine ou la créatine. Est-ce que vous avez déjà pris des dopants ou des compléments alimentaires et si oui, dans quel but ?
Pour ma part, non. J'ai jamais pris de compléments alimentaires ou quoi que ce soit. J'ai même jamais pensé. Mais je sais que par contre, même dans le monde amateur, en l'occurrence quand je faisais du cyclisme,
ça se fait beaucoup.
Il y en avait qui se dopaient, donc ce qui est assez bizarre parce que on se dit on est en amateur.
C'est pour ça que j'ai précisé que je doute pas de votre niveau, hein, mais je me suis dit quand même.
Non, mais c'est quand même chaud de se dire qu'on est en amateur et que ça se dope. Ouais. Et à l'époque, j'étais en. Sur le moment, tu t'en rends pas compte, mais quand tu y repenses 2-3 ans après, tu te dis ah ouais, c'est chaud quand même. Les mecs sont prêts à se doper même dans le monde amateur.
Et après c'est une addiction à la compétition, ils veulent tous gagner, donc après ils cherchent d'autres moyens pour être meilleurs, quoi. Et je pense que c'est ça aussi.
Ouais.
Je pense que derrière il y a aussi l'envie de tout gagner, ou je sais pas, l'envie de monter peut-être aussi.
Ouais, il y a aussi, je pense beaucoup chez les pros, une part de... Enfin c'est lié à l'économie du sport aussi, je pense, dans le sens où comme les sommes mises en jeu sont de plus en plus importantes et n'ont jamais été aussi élevées, forcément... c'est tentant de se doper et de se dire bon bah ok, je vais essayer de contourner la règle, mais au moins je vais gagner.
Bah moi je suis pas vraiment renseignée sur le sujet parce que comme exactement comme Hugo, je me suis jamais dopée et ça m'a même pas non plus traversé l'esprit parce que j'y ai jamais pensé, je me suis jamais posé la question. J'y ai pas pensé tout simplement parce que pour moi c'est pas ce que j'appelle le sport et c'est pas ma définition du sport qui doit être quelque chose qui doit rester naturel. Évidemment les histoires, les grandes histoires de dopage, que ce soit dans le cyclisme, même le tennis avec Sharapova etc, j'en avais entendu parler, mais je suis pas du tout renseignée sur le sujet.
Après il y a les trucs genre là j'ai mal de cocaïne, genre c'est des trucs hard, mais même la caféine c'est une drogue. Genre même des compléments alimentaires genre...
Bah ouais. Moi j'ai... En fait quand je regarde le tennis, je vois tout le temps, ils ont un petit logo Red Bull sur le côté, etc.
Ouais.
Genre Dominic Thiem, quand je le voyais rentrer, je suis pas forcément fan de Dominic Thiem, et mon pote si, et du coup je disais mais il est dopé parce qu'il prend beaucoup de Red
là,
Bull
là,
avant.
Là chouchou là, donc tu vas partir, et... tu vas
j'allais dire il faut pas...
Moi j'aime bien Tsitsipas, et depuis il a mis Red Bull sur sa manche, donc je suis un peu déçu.
J'aime bien Tsitsipas même depuis... parce que j'ai quand même... Moi j'aime bien Tsitsipas depuis Roland. Mais depuis Roland,
bah non,
il est en train de s'enfoncer, mais j'ai vraiment,
c'est trop chiant.
C'est un petit coup, oui, mais... je suis désolée. Ouais, hein. Soit sur le vaccin, les déclats, ses pauses douche, toilette.
Et ça, il le fait exprès, il en a joué. Hein.
Il a dit qu'il avait gagné
chiant.
Alors qu'il
il
avait
gagné. Il est trop chiant, mais moi je l'adore ce mec.
Hein,
non, non, mais pour revenir au Red Bull, du coup, je me dis, bon, on fait quoi? Avant un entraînement, je me dis, bon, je vais en prendre. Juste pour voir ce que ça fait, genre.
Déjà, c'est dégueulasse.
C'est dégueulasse, j'ai eu du mal à finir. J'arrive à l'entraînement et là boum 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 boum, je distribue. Alors je sais pas si c'est dans ma tête, je me suis dit bah je vais distribuer des pains. Mais attends, parce que du coup en plus mon prof il me dit bah vous allez faire un match. Je dis parfait, je vais voir un petit peu ce que ça donne. Premier set, je le gagne mais je mettais des pains dans tous les sens. Et après j'ai eu un coup de mou. J'étais mort en fait, comme si je devais en reprendre, etc.
Moi j'ai jamais fait de sport à ce point comme vous, mais je peux comparer ça avec les cours. Et j'étais crevée et j'ai pris du café, je déteste ça. Et j'ai pris du café genre une heure après, j'étais en mode oh, putain, c'est trop bien, j'avais des idées, j'ai fait un exposé, j'étais là. Et c'est vrai qu'après j'ai eu le coup de mou, et je pense que c'est super psychologique.
T'as vraiment besoin d'énergie ou tu te sens. Enfin, moi je sais que je le fais tout le temps. J'ai toujours du sucre quand je fais des matchs, parce que le sucre, bah, quand t'as un coup de mou, en vrai...
Oui, mais c'est bien, genre, c'est comme quand il mange une banane, c'est pas un...
Oui, voilà, ça. Non mais ça, voilà. Mais c'est pour dire qu'il y a d'autres moyens, quand t'as un petit coup de mou et tout, tu peux utiliser des choses pas forcément dopants. Ouais.
Perso, j'adore le sport. Je suis pas une grande sportive, je fais du sport à mon niveau, mais j'adore me renseigner là-dessus. J'ai l'impression que c'est vraiment un autre monde, surtout quand tu regardes un match qui te passionne. Je comparais ça avec le cinéma, pour ceux qui me connaissent. Être sportif, c'est un métier de passion, mais c'est addictif. Pour ceux qui ne sauraient pas, quand on fait du sport, on sécrète plusieurs hormones, comme l'endorphine qui est l'hormone du plaisir. Elle procure une sensation de satisfaction et de bonheur. Mais elle est également très addictive et peut même aller, selon le magazine Santé, provoquer de l'euphorie, des hallucinations, une insensibilité à la douleur, mais aussi de l'insomnie. Est-ce qu'à titre personnel, vous avez déjà eu peur que la dépendance que vous avez par rapport à un sport dépasse votre passion pour ce dit sport?
En fait, à titre personnel, je sais que je suis dépendante au sport dans le sens où, par exemple, il ne se passe pas une seule journée sans que je fasse une activité qui a un rapport avec le sport. Que ce soit en faire, en regarder, écrire sur du sport, lire du sport. Donc je suis dépendante, oui. Après, je pense que j'ai pas peur que ça me entraîne des conséquences aussi élevées comme les hallucinations, etc. Parce que je pense que j'ai pas une pratique, là je parle que en termes de pratique, je pense que j'ai pas une pratique assez fréquente et assez intense pour pouvoir vivre ça. Je pense que je connais mes limites et je pense que je suis consciente aussi de ce que ça peut avoir comme... comme conséquence, et je pense pas pouvoir, enfin je pense que je pourrais le gérer en fait.
Okay.
Donc non, je me suis jamais demandé si j'avais peur de ça, et je sais que quand je fais pas autant de sport que j'aurais envie d'en faire, bah je suis désagréable, je sais que ça a des répercussions sur mon comportement.
Le sport c'est un besoin, mais c'est pas non plus, ma pratique du sport n'influe pas négativement sur ma santé mentale ou même ma santé physique. Pour le moment, hein. J'espère que tout se passera bien à l'avenir. Mais.
T'es pas encore pro, c'est pour ça.
Ouais, c'est pour ça. Non, mais tu vois, par exemple, je pense que si vraiment j'avais percé un jour dans ma vie dans un sport et que j'avais dû à me mettre, par exemple, à respecter des régimes, à m'entraîner tel jour à telle heure, tant de fois par semaine, je pense que là, ça aurait pu devenir contraignant en fait. Mais je suis d'accord pour dire que c'est addictif. Parce que quand je fais du sport. T'en as pas fait pendant une semaine ou une semaine et demie, bah tu sens que t'as un manque en fait.
Au contraire, malgré les risques que le sport peut apporter, faut reconnaître que pour certaines personnes, sans sport, ça serait pas possible, comme on l'a dit. Le sport est très bénéfique évidemment pour le corps. D'après le journal Le Figaro, selon une étude britannique, Être sportif de haut niveau permet de vivre jusqu'à 13% plus longtemps que le reste de la population. Bien que cela ne vaut pas pour tous les sports, par exemple le rugby. Même pour des niveaux beaucoup plus faibles, c'est vrai, même pour des niveaux beaucoup plus faibles, on entend tous notre mamie nous dire que marcher est bon pour la santé. Personnellement, le sport m'aide à m'aérer l'esprit quand j'ai trop de choses en tête ou une dose de stress intense. Et pour vous, comment vous aide le sport dans votre quotidien ?
Moi, c'est indispensable. C'est en fait, par exemple, là, je peux pas rentrer tous les week-ends, etc. Mais quand je rentre le week-end, moi, je peux pas. Vraiment, là, j'ai eu mes deux week-ends et j'ai demandé à mon prof est-ce que je peux venir exceptionnellement au cours de 21h le vendredi. Et ça m'a fait un bien fou. En fait, ça me permet de m'enlever de tous les cours, etc., de la pression que j'ai en cours, etc., parce que je me mets de pression. Ouais. Et vraiment, le tennis, ça me libère totalement, même le fait de lâcher mes coups, etc., vraiment, ça me fait un bien fou. Et s'il n'y a pas ça, je pense que c'est vraiment compliqué. Donc là, je redoute un peu, parce que c'est la première année où je vais vraiment moins faire du tennis que d'habitude. S'il n'y a pas de sport dans ma vie, que ce soit à la télé, sur mon téléphone, ou si j'écris pas sur le sport, ça va pas aller dans ma vie. Donc ça conditionne vraiment mon état d'esprit. Je sais que par exemple, si le week-end il y a une course de F1, je vais être plus content que s'il y a rien ou un truc comme ça, genre.
C'est comme Charles. Enfin, moi le sport, enfin ça va faire un peu quoi dire, mais en soi, concrètement, ça m'aide entre guillemets à vivre parce que comme je fais ça.
Je sais vraiment pas le dire.
Oui, bon, alors on va dire les termes, hein, ça va. Hein, mais comme je fais ça tout le temps, comme toute la journée, enfin, c'est vrai que c'est tout le temps dans mon quotidien, tout le temps. Si j'arrêtais du jour au lendemain, c'est comme si je vivais plus ma vie actuelle en fait. Et ça m'aide dans. Évidemment, comme disait Charles, la pression. Quand t'as une journée chargée, que ce soit émotionnellement, physiquement, mentalement, t'as une sensation de libération et de sérénité, de bien-être quand tu finis une séance, c'est fou. Et puis moi, il y a un truc dans lequel ça m'aide beaucoup aussi, notamment par rapport aux compétitions. Ça m'a beaucoup aidé à gagner de la confiance en moi et à développer le sens de la compétition. Et ça, je trouve que dans la vie, c'est hyper important, surtout qu'on est tous ici parce qu'on est quand même rassemblés par quelque chose qui est le journalisme. Et on sait tous que le journalisme, c'est un métier qui est hyper dur et qui est un peu rude entre les personnes. En japonais, on appelle ça l'ikigai, la raison de vivre. Voilà, petite
c'est
parole.
Putain,
on pourrait remercier Armand Bécas pour
Armand.
Parce que j'ai lu son livre. Voilà.
C'était l'instant culture. ce que je disais, c'est que le sport, c'est vraiment un échappatoire en fait. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, t'as l'impression de tout oublier. Et il y a un truc que j'adore aussi quand je fais du sport ou quand je regarde du sport, c'est les valeurs que ça véhicule. Je trouve ça vraiment beau que ça réunisse autant de gens de tant d'horizons différents.
Regarde-moi cet homme.
Mais non, mais c'est vrai.
Mais c'est
trop beau. Je suis désolé. Moi, quand je regarde.
Mais non, mais la Coupe du Monde 2018, qui ose dire qu'il n'a pas été heureux. Enfin, c'est
incroyable. Tu vois, autant de Français réunis pour du sport.
Mais c'est fou.
Il y a que le sport qui fait ça.
Même Lille, non. Oui, on n'aurait jamais pu me retrouver sur la place.
C'est clair. En fait, c'est-à-dire que ça, c'est un truc que je trouve qui est universel où ça va rassembler n'importe. Enfin, ça rassemble, comme tu dis, tout le monde.
Des fois, je vais courir et je fais des séances qui sont vraiment dures où je me mets vraiment dans le rouge. Mais à la fin, je suis content de l'avoir fait, quoi. Je suis trop content.
Le vieux tonton avec son flash.
Il a raison.
Non, mais c'est vrai.
Moi, par exemple, à la fin de mes entraînements, etc., quand je sais que j'ai fait un bon entraînement ou même pas. Et je rentre chez moi, je suis vraiment très content, genre, et...
Moi, il y a un truc que j'adore, c'est un peu, peut-être, sado un peu, mais j'adore crever de chaud, genre, faire des grosses séances de tennis en plein cagnard, où je transpire.
C'est devenu une passion aussi chez moi, hein. C'est vraiment... Au début, j'aimais pas ça.
Je suis désolée, mais moi, j'adore me faire mal au tennis, genre...
Lâché la douleur en stress, mais regarde...
Où je termine la séance et je suis au bout de ma vie littéralement, où je dégouline et je suis trop contente.
Vrai, parce que quand t'as pas la douleur, tu dis j'ai pas fait grand chose aujourd'hui, parce que c'est pas normal.
T'as l'aboutissement.
Et c'est pour ça que moi je me donne à fond, même pendant les entraînements, parce que moi on me dit souvent, quand j'avais entraînement, la veille d'un match ou genre deux jours avant, on me dit Charles, t'y vas mollo. Mais moi je peux pas y aller mollo, je n'y arrive pas à aller mollo quand je fais du sport.
C'est chiant d'aller
mollo. C'est chiant si tu fais pas du sport, donc c'est bizarre. Ouais.
Maintenant, c'est la rubrique des tweetos que je ne présente plus tellement on l'adore.
Ladies and gentlemen, it's tweetos time!
Le premier tweet soulève une question que j'ai trouvée assez intéressante. Je cite chaque tweet avec les fautes de syntaxe et d'orthographe. Ce n'est pas bon. C'est du dopage si seuls certains en profitent, sinon c'est de la technologie. Après, il reste à savoir si c'est un progrès souhaitable et c'est un autre débat, comme les combinaisons en natation. Est-ce que vous pensez du coup que le dopage est légalisé en mode si tout le monde en prend? Ça passe.
Non.
Si c'est ça, c'est plus du sport. Hein.
Bah grave. Enfin, genre, le dopage, il peut tuer le sport, en fait.
Bah, évidemment.
Puis, en plus, au-delà de ça, le dopage, ça reste dangereux pour les athlètes, quoi. Okay.
Parce que là, le point de...
Après, déjà, moi, je suis pas fan aussi, désolé de te couper, mais non, je suis pas fan, par exemple... je suis pas au point là-dessus, mais j'ai vu qu'il y avait eu des nouvelles chaussures pour en athlétisme, etc., qui avaient fait gagner certains... Qui, comme par hasard, avait fait gagner certains athlètes. Ouais. Je crois que c'était Nike, là.
Ouais, bah en fait, ce qui fait débat, c'est les plaques carbone qu'ils font dans les... Bah, ça peut être comparé au vélo en carbone, sauf que les chaussures en carbone sont arrivées beaucoup plus tard, mais...
Mais là, quand même, c'était flagrant, quoi, qui gagnait, etc. Il a fait le record, le gars sur le 400 mètres. Donc, il y a des limites, je pense, aussi à... Ou alors, c'est la course à la technologie, c'est bizarre, quoi.
Après, je suis pas totalement contre le dopage technologique. Enfin, l'avancée, par exemple, les chaussures avec des plaques en carbone, que ce soit les paris pour les vélos et les tenues des coureurs qui sont ultra profilés.
Oui, mais à condition qu'ils aient tous les mêmes, alors.
Bah, dans tous les cas, ils auront jamais tous les mêmes chaussures, par exemple.
Ça c'est sûr. Est-ce que le gars qui va gagner avec des chaussures qui sont pas performantes, ça va être un exploit maintenant ou ça va être considéré comme une vraie victoire?
Mais enfin, je veux dire, qu'est-ce qui empêche par exemple Adidas de ne pas faire, de faire ce que Nike a fait, tu vois?
Ah oui, non mais ça oui, d'accord.
Parce que maintenant, ils peuvent aussi s'adapter.
Ah oui, c'est sûr.
Enfin, pareil, les courses cyclistes, ils ont pas tous les mêmes vélos, par exemple.
Oui, oui, mais
ils auront jamais tous le même matériel, tu vois?
Oui, oui, mais ça reste quand même sensiblement peut-être un peu la même chose.
Au pire, on interdit tout, comme ça, il n'y a pas de souci. Enfin, c'est pas comme se doper où ça touche directement le corps de l'athlète. Là, c'est plus des détails matériels. Oui, voilà, c'est ça. Enfin,
Non, mais oui, c'est vrai, ça aide. C'est plus comme avant. Du coup, tu te demandes est-ce que les performances historiques, finalement, elles sont pas toujours d'actualité ou est-ce que ça peut vraiment être changé? Est-ce que dans la tête des gens...
Ça reste des performances. Je pense qu'il faut les laisser dans leur temps.
Oui, voilà, il faut juste vivre avec son temps, je pense.
Ouais.
Il ne faut pas commencer à comparer les époques parce qu'on n'a pas fini, sinon.
Deuxième petite tweet. Le poids et l'obésité augmentent en flèche en France. Mettre les élèves au sport serait excellent. Il faut arriver à motiver les élèves à faire du sport. Mais déjà, il faudrait apprendre les bienfaits du sport sur la santé à l'école. Du coup, là, ma question, c'est est-ce que vous pensez que... au lycée, au collège, même en primaire, qu'est-ce que fait le sport qu'on pratique sur notre corps? Quels sont les bienfaits? Parce qu'au final, on a juste l'activité sportive, mais c'est pas vraiment ce que ça donne pour ceux qui connaissent pas.
Moi, je trouve ça même débile qu'on n'en ait pas, parce qu'en plus, le sport, ça a toujours été vu un peu comme les sous-métiers, c'est un peu une sous-matière. Genre, on va en EPS, tout le monde sèche l'EPS, enfin... C'est éducation physique et sportive, désolé. Mais moi, je vais comparer par exemple, c'est pas que je vais sous-estimer la classique et la musique, mais le PS, on met un peu dans la même catégorie du style, c'est pas une matière primordiale, mais je suis désolée, mais d'un côté, c'est l'art plastique et la musique où tu développes certes ta sensibilité, etc. Mais là, le sport, on parle de corps et de santé, genre, pour moi, ça a une dimension beaucoup plus importante. Et...
C'est parce que t'es sensible à ça, mais il y en a plein de sports, ils sont plus
La science prouve, la science a prouvé que faire du sport, que quand on faisait pas de sport, ça avait des effets, c'est comme les cigarettes, tout le monde sait que c'est mal, mais il y en a plein qui le fument. Le sport c'est pareil, tout le monde sait que faire du sport c'est bien pour la santé et il y en a pour autant beaucoup qui n'en font pas.
Ouais.
Et je trouve ça dommage qu'on sensibilise pas plus les élèves.
Mais je pense que c'est valable pour ce que tu as dit, par exemple la musique. Moi j'en fais depuis genre l'âge de mes 3 ans, je fais du violoncelle à haut niveau comme vous le sport, et c'est vrai que ça a des bienfaits genre sur le cerveau, chose que je ne savais pas quand j'étais petite.
Okay.
Et j'ai découvert ça. Bon, ce qui paraît, c'est censé aider en maths, c'est pas vrai pour tout le monde, du coup ça n'a pas marché pour moi, mais c'est vrai que je me suis fait.
Mais après, vous voyez avoir des cours genre 2 heures par semaine
de
bienfaits du sport?
Peut-être pas que ça soit
sur la
forme.
Je pense que c'est vraiment 10 minutes avant pour le sport.
Voilà, pas que ça soit sur la forme, c'est pas que faudrait que ça soit un cours non plus en mode 2 heures de maths comme ça.
Non, faut juste que ce soit un rappel du prof.
Mais peut-être que tu vois, une fois par semestre, avoir une petite intervention d'un sportif ou même d'un professionnel de santé d'une demi-heure ou une heure.
Après, ça dépend des profs de sport, parce que je sais que moi, mon prof de sport, dédicace, je me rappelle plus comment il s'appelle.
Il t'a marqué.
Mais c'est trop cool. Non, mais en vrai, il nous expliquait des fois ce qu'on faisait, pourquoi on le faisait et à quoi
c'est
ça servait. Quoi.
Mais c'est bon.
Dernier tweet. Tu as beau être le plus connu, si tout le monde s'en branle de ton sport au JO, moins de prestige que les compétitions classiques du e-sport, t'es pas la plus grosse star. L'effet marquant des JO, c'est jamais dans les sports les plus suivis habituellement.
Il trouve ça bien qu'il y a des sports dont on parle beaucoup moins dans l'année, qu'on découvre au JO. Et c'est clair que quand tu regardes les JO, tout le monde s'en fout du foot. D'ailleurs, je ne comprends pas pourquoi ils ont encore mis du foot, c'est nul. Par contre, le judo, l'escrime, l'escalade, t'entends parler que de ça pendant tout l'été, et après pendant 4 ans c'est niette à la poubelle. C'est pour ça que pour des sportifs dans un sport un peu moins populaire, les JO ça représente autant, parce que c'est peut-être une fenêtre hyper... c'est la fenêtre idéale pour mettre en avant leur sport. Teddy Riner, tout le monde connaît Teddy Riner. Qui regarde des combats judo à part au JO, honnêtement?
Bah en vrai,
c'est pas forcément médiatisé. Jamais tu vas te retrouver sur France 3 ou sur Canal+, ce soir.
La pétanque sur l'équipe, c'est plus médiatisé que le judo. Non mais c'est vrai, c'est pas
c'est
une
vrai, ouais, sans déconner. Ouais.
C'est vrai. Non mais, premier degré.
Après, par exemple, là, il y a eu le volleyball.
Ouais, le volleyball.
Et bah moi, j'ai regardé à fond les JO, mais il y avait l'Euro, bah j'y ai pas pensé, quoi.
Et genre, j'ai suivi un peu, t'as rien raté. Bon, ils sont sortis en 8ème.
J'ai suivi de loin, mais je me suis pas posé comme ça. T'as rien raté.
Non, très bien. Merci à tous les trois d'être venus, c'était super cool.
Avec plaisir.
C'était très intéressant.